France Inter.
Le Rassemblement National est parvenu à s'imposer de manière assez impressionnante sur l'ensemble du littoral méditerranéen, dans le nord évidemment, mais également en Bourgogne-Franche-Comté et dans le centre. Le RN s'impose donc dans 89 circonscriptions. C'est une première.
Au soir du second tour des législatives de juin dernier, le RN réussit une percée fulgurante sur les bancs de l'Assemblée nationale. Ce soir-là, on annonce 89 députés, ils sont en réalité 88 aujourd'hui, après un scrutin invalidé dans la Marne et la défaite qui a suivi de la candidate RN. C'est 10 fois plus de sièges que lors de la précédente législature. C'est surtout la possibilité de constituer un groupe parlementaire, avec 2 des 6 postes de vice-président à l'Assemblée, et c'est encore l'opportunité de siéger et donc de peser au sein des différentes commissions comme les finances, la défense ou encore les affaires étrangères. Ces 88 sièges de députés sont la concrétisation du long chemin de Marine Le Pen pour dédiaboliser le parti familial.
Il y a une différence, il y a une césure, il y a une cassure, il y a quelque chose. Et c'est pas les mêmes générations, c'est pas les mêmes façons de voir. À l'époque, moi j'étais à l'UMP, j'étais Sarkozy, etc. Si j'ai basculé RN, c'est parce que le RN n'est pas le FN d'hier. Voilà.
Depuis un an et cette entrée massive au Palais Bourbon, aucun texte du RN n'a été voté. Ces amendements le sont parfois, mais très à la marge. L'empreinte législative de l'extrême droite est encore discrète. Pour un parti qui avait déjà frappé un grand coup, c'était en 1986, avec l'ancêtre du RN, le Front National avait alors raflé 35 circonscriptions. À l'époque, le scrutin lui était beaucoup plus favorable, car à la proportionnelle, autre époque, autre chef de file, c'était alors Jean-Marie Le Pen. Pour le reste, les grandes lignes sont toujours là.
Dans la déclaration du groupe, on retrouve évidemment la priorité nationale. Et sur leur comportement général, j'ai le souvenir de cette phrase de Jean-Pierre Stirbois, qui était le numéro 2 du parti à l'époque, et qui avait dit « Nous ne serons pas des trublions, nous serons des aiguillons ». On est un peu dans la même veine, finalement.
Ce reportage commence le 1er mai dernier, une date importante dans le calendrier du Parti Nationaliste. Pendant bien longtemps, les célébrations étaient inlassablement organisées au pied de la statue de Jeanne d'Arc, à Paris. Mais la stratégie qui vise à lisser l'image du RN est toujours en cours. Cette année, donc, c'est une fête d'hommage aux travailleurs qui est organisée, et pas n'importe où, au Havre, le fief d'un possible adversaire de Marine Le Pen en 2027, à savoir l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. RN à l'Assemblée, une armée au service de la normalisation. C'est un reportage d'Élodie Forêt, avec pour commencer à la prise de son, Gilles Gallinaro.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
En juin 2022, en France, nous avons privé de majorité les partisans de la déconstruction. Alors en 2024, nous portons l'ambition de faire de même au Parlement européen. Peuple de France, nous n'avons pas encore fini d'être français. Cette conviction, c'est la nôtre. Nous l'avons dans le cœur et c'est elle qui nous porte et qui nous portera au pouvoir.
Ancien élu RPR, voilà, j'ai fait 2 mandats à Sarcelles. J'aide un petit peu avec mon expérience, avec. Voilà.
Alors là, on est au Havre, on fête ici le 1er mai une fête de la nation, c'est comme ça qu'ils ont décidé de le baptiser, avec un banquet ce midi. Est-ce que déjà c'est une bonne formule? Est-ce que ça vous plaît d'être au Havre avec un clin d'œil, nous disait Jordan Bardella, au monde industriel, au monde du travail? Est-ce que c'est une bonne chose d'être ici aujourd'hui?
Bah oui, il faut de l'ouverture, c'est bien.
De l'ouverture, ça veut dire dans un territoire en plus où on peut progresser, où voilà, pour l'instant les scores ne sont peut-être pas forcément les meilleurs.
Justement, il faut aller là où c'est intéressant d'aller.
C'est plus le 1er mai d'avant. On a forcément les images anciennes du 1er mai, du FN, des défis,
ouais,
etc.
Moi, j'ai jamais fait ce 1er mai-là. Ouais, non. Mais c'est bien qu'on aille un peu partout, c'est la normalisation.
C'est la
normalisation.
Voilà, on est normaux.
Il n'y a plus de cordon, quoi.
Ah non, on ne le voit plus, hein, en tout cas. Il y a beaucoup d'ex-RPR. Hein. Moi, j'ai retrouvé plein d'amis un peu partout hein, dans le mouvement maintenant. Les gaullistes, ceux qui étaient gaullistes dans le RPR, eh ben, il y en a toute une partie qui a rejoint Marine.
Et qui n'est plus heurté par le passé anti-gaulliste du ben parti.
C'est vieux, mais c'est vieux tout ça. Qui a connu ça? Moi, voilà, j'ai 76 ans.
Est-ce que je peux avoir votre prénom et votre nom, monsieur?
Bernard.
Bernard.
Non, mon nom, c'est pour la peine. Oui.
Très bien.
Moi, c'est Luc. Je viens de l'extrême gauche. D'accord, je suis un ancien CGT et j'ai fait toutes les sectes trotskistes. Je suis allé au NPA ensuite et j'ai fini en fait à la gauche révolutionnaire. Et donc j'ai fait une petite révolution personnelle et je me range maintenant du côté du peuple. Le peuple est en train de plébisciter de plus en plus le RN et donc je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau politique, il y a un coup à jouer à ce niveau-là.
Quand est-ce que vous avez fait votre révolution personnelle?
Ça s'est étalé, je pense que ça a commencé... je suivais peu ou prou en fait la LFI et la petite balade de Mélenchon avec les islamistes le 10 novembre 2019, ça m'a pas plu quoi. Ça
la
m'a pas plu. Voilà, non mais franchement là j'ai senti le gros coup de clientélisme. Bon, ça m'a pas plu du tout.
Alors vous êtes un ancien CGTiste, vous
ouais,
dites.
Ouais, ouais.
Les syndicats à l'extérieur là, de ces barrières se sont dit très hostiles
ouais.
à ce que le RN vienne faire son rassemblement aujourd'hui ouais. là au Havre. Il y a toujours une sorte de cordon hein, maintenu par le monde syndical, en tout cas par leurs représentants,
oui,
peut-être pas par les troupes et par la base.
Voilà.
Vous en pensez quoi quand,
c'est ça, c'est qu'en fait, ils devraient se méfier parce qu'en fait, à la CGT, il y a énormément de gens qui votent Rassemblement National, et à commencer par les dockers du Havre, d'accord ? Donc, ils devraient se méfier. Mais la base, c'est-à-dire vos adhérents, ils votent de plus en plus RN. Ah ouais, moi je parle avec des gens, maintenant ils sont plus du tout choqués par le Rassemblement National. Mais comme je disais en fait à un collègue, il m'a dit quel chemin tu as fait, mais je dis non, je dis en fait c'est le Rassemblement National qui a fait un pas vers nous en fait.
Hein. Mais sur l'immigration, la priorité nationale,
oui.
vous êtes d'accord avec tout ça?
Absolument, ouais. Vous savez le discours de Montigny, les Cormeilles de Georges Marchais en 79, réécoutez-le bien. C'est quoi la différence entre ce que dit Jordan Bardella maintenant et puis Marché à l'époque, quoi? Bon allez, je vais vous le concéder, on n'est pas encore assez social pour, pour moi, mais on est en train d'y venir, quoi.
Les présidentielles, la campagne électorale se poursuit, un meeting était très attendu, c'était celui que devait présider hier soir à Montigny-les-Cormeilles, monsieur Georges Marché.
Nous posons les problèmes de l'immigration. Ce serait pour utiliser et favoriser le racisme. Nous rechercherions à flatter les plus bas instincts. Nous menons la lutte contre la drogue. Ce serait parce que nous ne voulons pas combattre l'alcoolisme apprécié et répandu dans notre clientèle. Pour la jeunesse, je choisis, moi. Oui, je choisis l'étude. Le sport, la lutte et non la drogue. Alors, comme l'autre jour un dirigeant socialiste, ils crient tous en chœur « pétainisme ». Quelle honte! Quelle honte! De telles attaques ne déshonorent que leurs auteurs et ils ne méritent que le mépris.
On va rentrer dans la salle où se tient ce banquet donc pour le 1er mai, pour la fête de la nation. Une ambiance assez bonne enfant avec un groupe là, qui est en train de jouer tous les tubes de la variété française. Beaucoup de tables, des ballons bleu, blanc, rouge un peu partout. Sur les tables, des verres bleus où est inscrit... la fête de la nation, dans les verres des kirs rouges et des drapeaux dans les assiettes bleu, blanc, rouge. Pour l'instant, les gens sont assez sages. Quelques drapeaux sont pris en main et flottent, mais les gens sont pour la plupart attablés attendant les discours de Marine Le Pen et Jordan Bardella.
Il n'y a pas d'engagement plus estimable que de se mettre au service de son peuple pour sa défense, celle de sa liberté et celle de sa souveraineté. Et dans ce monde nomade, liquide, où tentent de s'imposer des identités factices, il n'est pas de devoir plus sacré que de défendre notre vision de l'homme. Vive la République ! Vive les peuples ! Vive la France !
Vous avez vu très enthousiaste pardon, quand Marine Le Pen et Jordan Bardella sont entrés dans la salle et sur scène. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu pourquoi tant d'enthousiasme aujourd'hui? Est-ce que c'est le fait d'être là, qu'il y a un banquet d'organiser, que tous les militants soient réunis
C'est le Rassemblement National.
Ouais.
Rassemblement de tout le monde. Ça rassemble les gens.
Vous êtes militante depuis combien de temps, madame?
Je sais pas combien de temps ça fait que je suis militant.
Une
dizaine d'années. Une dizaine d'années.
J'ai toujours voté Marine Le Pen. Les gens sont en train d'ouvrir les yeux, en fait.
On vit aussi à Villers-Cotterêts, qui est une ville Rassemblement National.
Oui, d'accord. Qui est, où il y a un maire...
Qui est là.
Jocelyn Decigny, député de l'Aisne.
Ça fait 8 ans que les gens nous voient travailler au quotidien, que les gens voient de quoi on est capable, ils voient ce qu'on fait, que la ville est bien gérée, qu'on fait le nécessaire, le maximum pour qu'il y ait plus de sécurité, pour qu'il y ait plus d'ordre, plus de social. Et ça, les gens le constatent au quotidien. Et il y a beaucoup de gens qui, même des fois, m'ont dit au début, on a voté pour vous par dépit, et qui aujourd'hui, c'est un véritable vote d'adhésion.
Ah, Le Havre. Le Havre, tout simplement parce que c'est une ville qui a une vraie tradition. Une tradition industrielle, une tradition ouvrière. Et vous le savez, le premier parti de France pour les ouvriers, c'est le Rassemblement National.
Laurent Jacobelli, porte-parole du RN.
Le parti qui recueille le plus d'adhésion sur son programme social, c'est le Rassemblement National. Et cher Edwige, après cet épisode douloureux de la réforme des retraites, c'était important aussi d'être ici, au Havre, je crois à cause de son maire.
Eh bien oui, parce que le maire, c'est le monsieur de la réforme à 67 ans.
Exactement. Alors nous sommes ici pour dire que oui, la nation, nous y croyons, et oui, le travail, nous y croyons. Merci, merci d'être venu au Havre. Je sais que certains sont venus des quatre coins de la France, vous vous êtes organisés, vous avez fait des covoiturages. Ça fait plaisir de vous voir. On est à chaque fois plus nombreux. Nous sommes aujourd'hui plus de 1500. Applaudissez-vous.
Après Le Havre, nous restons en Normandie, mais cette fois dans l'Eure. 4 des 5 députés du département sont issus des rangs du Rassemblement National dans un territoire qui, jusqu'alors, n'avait jamais donné sa préférence aux partis d'extrême droite. Nous allons nous arrêter dans deux villes, Louviers, mais d'abord Pont-Audemer. C'est d'ici que vient Kevin Mauvieux. À 32 ans, il est l'un de ces nouveaux visages du RN. Il a milité pour l'UMP, a soutenu Nicolas Sarkozy avant de rejoindre le Rassemblement National.
Pont-Audemerien, pure souche. Depuis plusieurs générations et on le restera.
Élodie Forêt et Nicolas Mathias le rencontrent sur le marché de la ville.
Bonne journée.
Voilà.
Bonjour.
Bonjour.
Vous voyez
vous-même. Impeccable. Pardon. C'est un petit papier sur ce qu'on a fait depuis le début de la réforme des retraites.
Et c'est qui ça?
C'est qui?
Ah bah c'est moi.
C'est le député d'ici, le Rassemblement National.
Ah bah alors, non. C'est pas la peine,
non.
Monsieur.
Merci de
vous. Je vous en prie.
On est contre la réforme nous-mêmes, mais voilà, vous n'êtes pas beaucoup. Vous ne parlez pas beaucoup d'abord. Hein.
Est-ce que c'est un reproche qui vous est parfois fait de ne pas peut-être avoir assez combattu la réforme, ne pas s'être assez montré?
Honnêtement, sous le contrôle de ma collaboratrice qui est tout le temps avec moi quand on fait le marché, etc., c'est la première fois qu'on l'entend sur le marché. les gens ont bien compris qu'il y avait eu deux façons de faire. Il y a eu une façon de faire de gauche qui a été de crier dans tous les sens, donc effectivement on les a entendus, mais qui a servi à rien à part empêcher de voter. On va passer par la gauche, par là. Une fois n'est pas coutume, allons à gauche. Et du coup, les gens ont bien perçu voilà, qu'il y avait eu deux façons de faire. Il y a eu la façon NUPES de râler fort et la façon RN de déposer le strict minimum en termes d'amendement pour pouvoir aller voter et rejeter le texte. Bonjour. Bonjour.
Ça va bien ?
Impeccable.
Vous allez bien ?
Bah oui, nickel. Bon, ça va bien ?
Ça va bien.
Profite toujours du soleil ? Toujours sur le terrain.
Ah ben toujours, on lâche rien.
Bah non, il faut pas lâcher.
Il faut pas lâcher, mais Macron est...
Vous êtes des électeurs RN ?
Moi, oui.
Arrivé à un moment, il faut dire stop, hein, parce qu'on se fout de nous, quoi. Hein ? Ça bouge pas, bah, il faut changer.
Les élus RN, on les voit beaucoup sur le terrain, alors qu'avant, on voyait personne. Les gens constatent que les élus RN, c'est pas Jean-Marie Le Pen. C'est dommage pour Marine, elle porte le nom de son père.
Ah encore. Oui, c'est ça qui est mais dommage. Il y a longtemps qu'elle aurait pensé, sinon...
Il y a des gens qui... De moins en moins, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui font le parallèle Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Oui, mais ces gens-là, ils oublient que Marine Le Pen a viré son père du parti. Est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous imaginez un jour ? Vous reprenez la boîte de votre père, qui travaille dedans, il vous la lègue, et vous virez votre père. Vous imaginez faire ça ? Il y a plein de gens qui me disent, bah non, je pourrais pas. Bah dites-vous qu'elle, elle l'a fait. Donc c'est bien qu'il y a une différence, il y a une césure, il y a une cassure, il y a quelque chose. Et c'est pas les mêmes générations, c'est pas les mêmes façons de voir. À l'époque, moi j'étais à l'UMP, j'étais Sarkozy, etc. Si j'ai basculé RN, c'est parce que le RN n'est pas le FN d'hier. Voilà.
Non, on va pas monopoliser, parce que je sais pas si ça lui empêche sa vente ou pas. Non. Un peu.
Bah
non,
on cache le stand.
Mais il faudrait que tu t'y habitues. Hein.
Il sent bon, mais on le cache.
C'est notre député quand même, alors. Hein. Bon. Vous êtes petite pour RN, mais bon, voilà. Il faut changer, vous savez.
Bon,
on va être bouffé. Oui, bouffé. Bonne continuation.
Au bout d'un an, là, à sillonner votre circonscription, vous pensez que cette frustration et ce sentiment-là de colère, il va avoir comme conséquence un vote RN aux prochaines élections,
ah oui.
Ou parfois une abstention parce que les gens se disent on en a marre, rien ne marche, rien ne sert.
Alors, il y a un peu des deux, mais en proportion, on en sort vainqueur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez un petit peu de personnes qui se disent on n'ira plus voter, ça sert à rien. Bonjour. Ces gens-là sont pas très très nombreux. Il y en a, mais ils sont pas très très nombreux. En fait, comme à une époque, on disait qu'il y avait un plafond de verre pour Marine Le Pen, à l'inverse, je pense qu'il y a un plancher d'abstention où au bout d'un moment, on touche le fond, entre guillemets, les vrais démotivés ont déjà arrêté. Et donc, les gens qui disent j'irai pas voter, ça sert à rien, j'en entends pas ou très peu. Par contre, j'entends beaucoup de personnes dire ouais, il faut que ça change. J'ai entendu des gens dire j'ai pas voté pour vous, j'ai voté pour la NUPES parce que je suis plus NUPES, mais quand je vois ce qu'ils font, bah, je vais voter pour vous. Énormément de personnes qui disent je suis pas allé voter parce que je pensais que vous pouviez pas passer. Quand je vois que vous êtes passé, bah, en fin de compte, je vais y aller. Ils voient le travail qu'on fait à l'Assemblée nationale. Il y a certaines personnes qui le disent ouvertement, qui disent moi j'ai jamais voté pour vous parce que bah, on savait pas ce que vous valiez. Donc la seule image qu'on avait, c'était l'image que les médias renvoyaient de vous. Et comme les médias disaient toujours extrême, 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 bah, on n'osait pas y aller. Bon, bah là, vous êtes 88, ça fait bientôt un an. On voit dans les faits ce que vous faites et qui vous êtes. Bah non, vous n'êtes pas ce qu'on nous a vendu, donc bah, on va venir vers vous. Voilà, il y a tout ce mouvement de fond qui est en train de se faire et qui nous bénéficiera, je pense. Mais bon, il faut continuer à travailler.
Ah, monsieur le député.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va, vous ?
Ouais, nickel.
On n'arrête pas de se croiser une fois qu'on s'est vu.
Voilà, c'est ça. J'ai vu que vous étiez à Cormeil ce week-end.
Ouais, ouais, exactement. Bah ouais, ouais.
C'est toujours... Bon, un peu de repos, quand même.
Bah, voyez, on y retourne, hein.
Bon, bon courage. Hein.
Après, c'est les bons moments du mandat, faire les marchés.
Ça, c'est pas le plus désagréable.
Les foires à tout.
L'Assemblée, c'est vacances, là.
Ouais.
Ouais, bon, alors profitez bien, un peu de repos.
Merci, hein.
À bientôt.
Bon courage, bonne journée.
Les gens sont très au courant. Ah, ils savent quand sont les vacances parlementaires.
Ah, mais les gens sont très informés. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je voulais vous voir,
justement. Je le savais, c'est pour ça que je revenais.
C'est vrai ?
Ouais.
Du coup, j'étais en train de lire.
J'ai vu à la caméra que vous étiez là.
C'est vrai ? Ah, bon.
Nous arrivons à la mairie de Pont-Audemer. C'est un grand bâtiment à quelques encablures du marché de Pont-Audemer. Nous avons rendez-vous avec le maire Alexis Dormois, qui est en place depuis un an et demi. Il est issu du Parti Socialiste. Aujourd'hui, il se considère sans étiquette et il fait partie de ceux qui bataillent ici dans cette circonscription contre le RN. Il avait notamment été à l'initiative d'une lettre des élus appelant à faire un front républicain aux dernières législatives.
C'est vrai qu'on est une circonscription et même un département où le front républicain n'a pas marché, il a cédé.
C'est-à-dire que vous, quand vous dites le Front républicain n'a pas marché, vous aviez signé été à l'initiative d'une lettre pour appeler les élus à faire front. Et ça avait recueilli combien de signatures, cette lettre, cet appel ?
Ça avait recueilli un nombre de signatures important de la part de maires du territoire, mais ce qu'on voit bien aussi, et je le dis tout en ayant été à l'origine de ce courrier, que ça a de moins en moins d'impact sur les électeurs. On avait essayé d'être extrêmement clair sur le fait que c'était pas une consigne de vote, mais de dire, nous, en tant que maire, on est bien placés au quotidien pour voir que le Rassemblement National n'est pas un parti comme les autres. Et il me semble qu'il y a des occasions où il faut le rappeler, mais on a aussi beaucoup de maires qui étaient frileux, puisque le Rassemblement National est majoritaire dans leur commune.
À l'Assemblée, cette année, on a vu que le cordon sanitaire, entre guillemets, avait malgré tout tenu. Il n'y a aucune proposition de loi du Rassemblement National qui passe. Il y a quelques amendements, mais c'est vraiment à la marge. Est-ce que vous direz que vous, au niveau local, il y a un cordon sanitaire qui persiste ou alors il s'effrite et effectivement, les maires reçoivent le député et puis ça pose pas de problème, il est reçu dans les cérémonies et tout se passe bien ?
Le député, il est reçu avec un respect républicain qu'on doit à la République, mais avec beaucoup de scepticisme sur la qualité de son travail, ça c'est évident.
Pourquoi scepticisme sur son travail ?
Parce qu'il travaille peu et que le travail qu'il fait n'est pas efficace. Aujourd'hui, il n'est pas en mesure de nous aider à défendre nationalement des dossiers locaux. Au contraire, le fait qu'il soutienne un dossier est plutôt de nature à lui promettre un destin funeste. Aujourd'hui, un député Rassemblement National, c'est un boulet pour un territoire. Ça freine un territoire. Ça, c'est une réalité.
Trois quarts d'heure de voiture de Pont-Audemer, nous sommes à Louviers, dans la quatrième circonscription de l'Eure, la seule du département où le RN n'a pas gagné en juin dernier. Ici, à 350 voix près, c'est un socialiste qui s'est imposé, Philippe Brun, 31 ans. Un parcours un peu atypique, diplômé de l'ENA, socialiste, il quitte le PS en 2015. En 2020, il présente une liste au municipal avec Ingrid Levavasseur, figure des Gilets jaunes. Il revient ensuite au PS avec cette conviction, pour lutter contre le RN, il faut sortir la gauche de son embourgeoisement intellectuel. Nous le rejoignons à sa permanence.
On y va ? Vous suivez ?
Interception.
Bonjour mesdames.
Sur France Inter.
Ça va ? Philippe Brun.
Bonjour.
Vous, madame, je peux vous demander pourquoi vous êtes venue voir votre député aujourd'hui ?
Bien, parce que j'ai fait un infarctus sur mon lieu de travail. Et les démarches n'ont jamais été faites. Et donc, un burn-out qui a suivi. Et moi, je lis fauteuil pendant un bon bout de temps. Mes enfants étant en études et partis à l'étranger, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Mais bon, d'accord. Ça n'a pas été simple. Et des revenus confondus. Et je me suis retrouvée avec des 300 euros de salaire par mois. Donc, des grandes difficultés financières. Donc, ne sachant plus trop où, de quel côté me retourner, je me suis dit, je travaille à Louviers, le député, c'est Monsieur Philippe Brun, autant que j'aille voir Monsieur Brun.
Est-ce que je peux vous demander pour qui vous aviez voté, par exemple, l'an dernier ?
Personne.
Personne ? Vous avez décidé de ne plus voter ?
Ah non, je suis allée voter, mais j'ai voté personne. Qui voulez-vous qui nous donne de l'espoir ? Il y a des gens qui vivent avec 500 euros par mois. C'est en train de faire la force de Marine Le Pen, ça c'est sûr. Il faut être à l'écoute et se rendre compte de par quoi les gens passent.
On y va ?
Oui, sinon on peut se mettre. Oui, vous me disiez, cette permanence, c'est un peu, et on l'a entendu ici, c'est quoi ? C'est un bureau où les gens viennent aussi se confier sur leurs soucis vraiment concrets du quotidien ?
Oui, absolument. Dans ma circonscription, sur les 5 dernières années, on a fermé 7 centres des finances publiques. C'était les endroits où vous pouviez aller voir un inspecteur des impôts pour répondre à votre question. On a fermé 3 accueils de la sécurité sociale. On a fermé 12 classes d'école et une dizaine de bureaux de poste. Et évidemment, ça se voit. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus personne à... Ils ne savent plus à qui s'adresser pour résoudre leurs problèmes. Et donc moi, j'ai décidé, quand j'ai été élu, de faire de cette permanence une maison de service public. Et donc ça ne désemplit pas. Moi, j'habite ici, j'ai grandi ici, j'ai jamais vécu ailleurs qu'ici. Donc je connais vraiment bien le territoire. Et c'est un territoire qui n'était pas du tout frontiste avant. En 2017 encore, les 5 députés du département étaient tous les 5 élus avec plus de 60% des voix face au RN. Emmanuel Macron est évidemment extrêmement responsable, mais de manière générale, il y a une usure, il y a une fatigue du système politique. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut des femmes et des hommes engagés de terrain qui aillent reconquérir une par une les voix perdues et les cœurs des gens qui s'abstiennent, parce que surtout ils s'abstiennent et qui votent pour le Rassemblement National.
Là, on va aller faire du porte-à-porte. C'est le type d'exercice qui permet de reconquérir une voix par une, justement,
Oui, particulièrement dans les lotissements où on ne voit jamais finalement d'hommes politiques, dans les familles, des familles souvent elles viennent pas dans les réunions politiques, elles se déplacent pas forcément sur les marchés parce qu'elles n'ont pas l'argent avec la crise du pouvoir d'achat. Et donc moi ce que je fais c'est je vais frapper aux portes, je dis bonjour, je suis le député, je veux savoir ce que je peux faire pour vous. Et il y a une parole citoyenne qui ressort de tout ça qui est vraiment très intéressante.
On y va.
Qui votent plutôt pas mal pour le Rassemblement National et surtout un quartier de gens qui se sentent un peu délaissés par les différentes politiques publiques. On est vraiment au cœur de la France des Gilets jaunes ici. Voilà. Les lotissements, les barbecues à l'arrière des maisons, les voitures individuelles, voilà. Et on est à côté d'un centre commercial. Donc c'est un petit peu le décor à laquelle l'autre tout de suite.
Et pas tout près du centre-ville.
Non, voilà, excentré. Voilà. Bonjour messieurs, dames.
Bonjour.
Philippe Brun.
Philippe, va bien ?
Ça va ?
Ça va.
Bonjour.
Bonjour. Ça va. Moi, je suis avec une équipe de France Inter là.
Bonjour.
On fait un petit porte-à-porte dans le quartier.
D'accord.
Et puis France Inter se demande pourquoi le département de l'Eure a autant de votes pour le Rassemblement National.
Ouais. No comment.
Quand on dit no comment, souvent c'est qu'on a des choses à dire.
Ouais.
Non, tout à fait. Non, mais de toute façon, il y a des choses qui ne vont plus. Il y a des choses qui ne vont plus. Là. Les gens veulent autre chose. Ouais. On va voter Front National, au moins. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre ? On a eu la gauche, on a eu la droite, on a eu le centre. Ouais. C'est vrai.
Allons, on va parler, Loulou.
Au revoir.
On va faire un petit tour.
Bonjour.
Bonjour.
Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez un peu de la situation politique du pays ? Comment ça se passe ?
On ne se sent pas compris. On a l'impression qu'on n'est pas écouté, que nos voix ne sont pas portées.
Et alors, qu'est-ce que vous portez comme regard ? Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le département de l'Eure, je suis le seul député qui n'est pas membre du Rassemblement National.
C'est malheureux, c'est malheureux, hein, c'est triste. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont du côté du RN, mais qui ne portent pas forcément toutes les idées du RN. Mm-hmm. Je pense qu'ils en ont marre. Enfin, là, c'est un ras-le-bol général. Et du coup, peut-être que pour eux, le fait de changer les choses, c'est de voter RN, malheureusement. Mm-hmm. Donc voilà, après, c'est aux autres partis de trouver d'autres pistes. Quoi.
Je suis convaincu de ça aussi. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'en fait, lutter contre le RN, c'est d'abord lutter pour nous-mêmes, en fait.
Non, mais bien
c'est-à-dire revoir ce qu'on raconte aux gens, revoir la manière dont on s'adresse aux gens, avoir un programme crédible. Voilà. Et c'est comme ça, je pense, qu'on luttera contre le RN. C'est pas en disant... Enfin, à mon avis, la diabolisation, malheureusement, marche plus.
Vous êtes le grand frère de Cécile Brun ?
Ouais.
D'accord, ok.
C'est trop drôle.
Ma femme lui a donné des cours particuliers pendant pendant très 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 longtemps.
De maths ?
De mathématiques.
Ouais, c'est ça. Oui. C'est trop drôle.
Et à peine de rentrer, elle me dit mais tu viens de te faire interviewer par Philippe Brun. Je dis oui, mais elle me dit c'est le
grand frère de Cécile. Ouais, c'est la petite sœur Cécile. Ouais.
Bah oui.
De toutes tous les échanges que j'ai avec les gens, je parle à peu près de 200 échanges comme ça par week-end. Ce que je constate, c'est qu'il y a le sentiment que le régime Macron est terminé et qu'il faut aujourd'hui un plan B, une équipe B à l'équipe Macron. et l'équipe B la plus crédible aujourd'hui pour les gens, en tout cas la moins repoussante, c'est le Rassemblement National.
Ouais, ce qu'on sent peut-être, c'est qu'après un an, ils n'ont pas provoqué d'enthousiasme.
Non.
Mais ils n'ont pas provoqué non plus de...
Non.
Ils n'ont pas été repoussoirs.
Non, non, ils ont fait finalement une stratégie assez simple. C'est une stratégie complètement statique. Et ils ont finalement capitalisé sur nos manquements. La gauche s'est progressivement effectivement éloignée des classes populaires, des ouvriers, des employés, pour finalement se réfugier sur un vote des centres-villes. Et il y a une figure effectivement qui a été créée par une caricature, je crois que c'est Charlie Hebdo dans les années 70, qui était la figure du beauf. Et que la gauche finalement ait décidé que la figure du beauf soit finalement la figure à abattre est symptomatique de l'ornière dans laquelle elle s'est mise. On devrait être le parti des beaufs. Voilà. La vocation originelle de la gauche, quand on a inventé la gauche à la fin du 19e siècle, c'est de dire on va défendre les ouvriers, on va défendre les employés, oui, on va défendre les gens qui font un barbecue de temps en temps le dimanche, on va défendre les gens qui aiment bien Johnny Hallyday, voilà. On va défendre les gens qui aiment bien le rap. Et oui, nos électeurs, il y en a plus qui font des barbecues que qui mangent du quinoa. Voilà, c'est une réalité, en fait. Il faut qu'on se le dise, et c'est pas grave, en fait. Mais il faut revenir, faut reprendre le sens du combat et de ce pourquoi nous sommes là.
Si la diabolisation ne marche pas, nous explique ce député, c'est bien parce que la normalisation, elle, fonctionne. Faire du RN un parti comme les autres, c'est le credo de Marine Le Pen, qui n'est pourtant pas la première présidente de ce parti à conduire des troupes à l'Assemblée nationale. Avant elle, il y a eu son père, en 1986, leader des 35 députés frontistes qui ont trouvé un siège à l'Assemblée.
Prenons place, mes chers collègues, prenons place.
Élodie Forêt et Thomas Robin sont allés rencontrer une journaliste politique qui a couvert cette vague frontiste de 86. Béatrice Houchard a travaillé notamment pour le quotidien L'Opinion. Elle est une mémoire de notre vie politique, 6 campagnes présidentielles, des souvenirs de la petite et de la grande histoire parlementaire, dont cette arrivée au Palais Bourbon, des pionniers frontistes, il y a près de 40 ans.
Oui, moi je me souviens très bien de l'arrivée, ça m'arrive d'y penser quand je repasse parfois salle des quatre colonnes. Ça faisait un peu pack de rugby groupé autour du capitaine de l'équipe Jean-Marie Le Pen et entrant en triomphateur. Tout le monde s'était tué en disant « ils arrivent quoi ». Et voilà, c'était quand même un sacré... Il y avait deux événements cette fois-là, la cohabitation qui commençait et puis cette arrivée, pas totalement inattendue puisque c'était un scrutin proportionnel, mais pas si attendu que ça finalement. Jean-Marie Le Pen voulait que ses députés soient irréprochables. Bon, la question de la cravate ne se posait pas puisque la cravate était obligatoire à l'époque, mais voilà, bien se tenir, montrer que ce sont des députés comme les autres, qui savent qu'ils peuvent travailler, faire des amendements, des rapports, être en séance. Donc un besoin de montrer qu'ils sont au niveau de la charge, ce qu'ils ont manifesté notamment en étant les plus assidus. Donc, une vraie présence et un vrai travail. Ça, c'est effectivement le point commun.
Sur la méthode, en revanche, ça diffère un peu. Il y avait plus de virulence, peut-être, dans la façon d'être.
Oui, alors ils étaient très procéduriers, très interventionnistes, rappel au règlement, ce qui était aussi une manière de montrer qu'ils connaissaient les arcanes juridiques de la maison, et puis avec des différences sur le fond.
Mais c'est vrai que sur la forme, pour finir, Jean-Marie Le Pen était capable de pousser la chansonnette. Clairement, on imagine
alors,
moins Marine Le Pen.
D'abord, Jean-Marie Le Pen parlait sans notes. Donc sans notes, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et pas pour la politique générale, mais à l'automne 86, je crois, pour la discussion sur le budget, il avait effectivement terminé son intervention en entonnant, je ne vous le chanterai pas, un air en reprenant un peu les paroles de l'opérette La fille de Madame Angot, en disant Mitterrand est roi, Chirac est sa reine, c'était pas la peine assurément de changer de gouvernement. Il se trouve qu'il chante très bien. Je me souviens que tout le monde était tétanisé à son banc.
Pétrifié.
Même. Ah oui, pétrifié. Et puis visiblement, il aimait ça, quoi. J'allais dire, il prenait son pied à la tribune. Oui, on peut dire que ça comme ça.
Sur le fond, vous disiez beaucoup plus libéral à l'époque.
Oui, c'était le programme du Front National de l'époque, oui, pour une politique libérale, donc plutôt en accord avec, par exemple, quand il y a une motion de censure contre les privatisations, ils ne la votent pas. Et les centres d'intérêt, j'ai recherché pas mal de choses, évidemment, sur l'immigration, l'insécurité, l'immigration beaucoup, et pas mal d'interventions sur les sujets sociétaux, pour un salaire maternel, contre l'avortement, pour la peine de mort, voilà, ça, beaucoup, alors que ces sujets-là ne sont pas du tout prioritaires, et pas du tout le discours social qu'il y a aujourd'hui avec Marine Le Pen.
Sur ce qui reste des idées, du corpus, on est principalement sur l'immigration, sur la priorité nationale.
La priorité nationale qui est déjà dans la déclaration du groupe, on retrouve évidemment la priorité nationale. Il dit beaucoup « nous sommes des nationaux ». Et sur leur comportement général, j'ai le souvenir de cette phrase de Jean-Pierre Stirbois, qui était le numéro 2 du parti à l'époque, et qui avait dit « nous ne serons pas des trublions, nous serons des aiguillons ». On est un peu dans la même veine finalement. Et le groupe s'appelait Rassemblement National. Sûrement pas une coïncidence.
Donc là, on est au moins deux de l'Assemblée nationale. Et on va dans la pièce 62-17, qui est la salle de réunion aujourd'hui du RN, et qui avant était la salle de réunion du groupe LR. Petite anecdote, il y avait avant un grand portrait de Jacques Chirac, mais qui a été décroché et qui n'a pas été remplacé.
Bonjour. Oui, on vient faire un peu de visite. On fait la visite avant votre...
Bonjour, ça va ? Vous allez bien ?
Donc voilà, et donc le bureau de la présidente.
Marine Le Pen, présidente du groupe RN. C'est bon pour vous ?
Parfait.
Est-ce que d'occuper maintenant ces bureaux, cette salle de réunion qu'on vient de visiter, qui était avant la grande salle de réunion des LR, est-ce que ça dénote quelque chose de l'évolution, finalement, du parti ?
Bah oui, bien entendu, ça dénote d'abord que nous y sommes nombreux dans cette Assemblée nationale. Moi, je vois dans ces locaux surtout un aspect effectivement pratique. Nous pouvons travailler dans des très bonnes conditions, ce qui nous permet d'être à la hauteur des attentes, des espérances de ceux qui ont voté pour nous. Lorsque vous n'avez pas véritablement de groupe de députés à l'Assemblée nationale, vous êtes non inscrit, vous avez très peu de possibilités d'expression, très peu de possibilités véritablement de travail, très peu de possibilités pour participer véritablement à l'institution. Et vous ne pouvez pas appliquer vos idées. Aujourd'hui, nous les appliquons, nous multiplions les propositions de loi, nous amendons l'ensemble des textes qui sont proposés, nous prenons la parole sur l'intégralité des projets ou des propositions de loi présentées. Et puis, il y a peut-être un gain qui est moins visible, mais que je ressens moi beaucoup, c'est qu'il n'existait pas, comment dire, au sein du Rassemblement national, un collectif dans lequel les Français pouvaient projeter en fait un potentiel gouvernement. De fait, les Français voient que Marine Le Pen, contrairement à ce qu'on leur a dit, n'est pas seule. Elle est accompagnée de gens de qualité, de gens d'expertise, et qui, demain, pourraient, pour un certain nombre d'entre eux, participer très légitimement à un gouvernement.
Il y a malgré tout un constat, c'est qu'il y a des barrières qui demeurent, une étanchéité même qui demeure. Pendant la niche, par exemple, parlementaire, cette journée qui est consacrée à vos propositions, il n'y a pas eu de proposition de loi qui a été adoptée. Les amendements, il y en a quelques-uns qui peuvent passer, mais c'est un peu à la marge. Vous avez créé une association parlementaire contre le wokisme. Aux dernières nouvelles, à moins que ça ait changé, il n'y ait pas forcément de députés LR, alors qu'ils pourraient avoir le même combat, hein, qui ne vous ont pas rejoint. Est-ce que c'est un obstacle ? Vous avez beaucoup dénoncé le sectarisme des autres. Mais est-ce que vous, ça peut vous porter aussi préjudice ? Vous vous dites, faut que ça change à un moment.
Je pense que c'est ce qui nous amènera au pouvoir. La réalité, c'est que le sectarisme des autres groupes politiques démontre aux Français qu'ils ne se battent pas pour l'intérêt supérieur du pays, ni pour l'intérêt des Français, mais pour leur propre boutique. Ils le font, pardon, parce qu'ils pensent que ça nous gêne. La réalité, c'est qu'ils arrivent avec ce type de comportement à convaincre les Français que nous sommes différents des autres.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Marine Le Pen fait donc tout pour que rien n'interfère avec son objectif de normalisation, y compris mettre récemment à distance ses anciens amis du GUD. Un épisode a pourtant ébranlé cette stratégie. Nous sommes le 3 novembre. Le député insoumis Carlos Martins Bilongo interroge le gouvernement sur le bateau Ocean Viking.
Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue.
Quand soudain, Grégoire de Fournas, député RN de la Gironde, l'interrompt.
Pas du tout. C'est violence.
Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase ?
Grégoire de Fournas, que nous retrouvons dans sa circonscription, à Pauillac, au cœur du Médoc.
Je suis le premier à m'excuser de cette maladresse. Pas d'avoir proféré une insulte raciste vis-à-vis du député, parce que ce n'était pas le cas, mais parce que j'avais effectivement prêté le flanc à une manipulation. Donc nous, notre difficulté, c'est de faire attention à ne pas être dans l'ambiguïté pour qu'on puisse, encore une fois, d'une façon malhonnête, nous accuser ou nous diaboliser. Voilà. Mmh. Moi, en revenant dans ma circonscription, j'avais quand même peur de ce que pensaient les gens de tout ça. Et j'ai été particulièrement surpris par le fait que non seulement les sympathisants du Rassemblement national n'étaient pas dupes de cette manipulation, mais aussi l'électorat centriste, par exemple, des gens qui votent ouvertement Emmanuel Macron, mais qui étaient tout à fait conscients du fait qu'on avait détourné le sens de mes propos. Et certains même disaient, de toute façon, on est même d'accord sur le fond avec vous.
En règle générale, est-ce que vous sentez qu'il y a un véritable désenclavement ? Vous m'avez dit, en 2015, quand j'ai été élu conseiller départemental, le choc avait été bien plus important.
Oui. C'était le début de la remontée du Front National à l'époque, hein, sous l'impulsion de Marine Le Pen. Donc on avait très peu de conseillers régionaux, on n'avait pas de maire, on n'avait pas de parlementaire. Donc on était en fait un parti marginalisé et que tout le monde espérait marginaliser pour toujours. Quoi, voilà. Arrivent ces élections départementales qui sont le premier coup de tonnerre parce que nous gagnons ce canton. C'est la première fois que le Front National à l'époque peut accéder au conseil départemental. Je gagne contre le maire de la sous-préfecture, donc ce qui n'est pas rien. Je gagne y compris dans sa commune. Et évidemment, il y a une grande tension qui se crée à cause de ça avec les élus locaux. Mais ce qui était intéressant, c'est que par la suite, en les côtoyant au quotidien, les relations se sont normalisées. Et puis, en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que mon élection comme député en juin dernier ne crée pas ce choc. Les maires me connaissent déjà. Et le fait, effectivement, d'incarner localement le Rassemblement National, ça permet quand même d'apaiser un peu la vision que les gens peuvent avoir de notre mouvement et puis de créer des relations au niveau local qui sont importantes pour la progression de notre mouvement.
Oui, mais jusque-là, justement, cette implantation locale, elle faisait plutôt défaut.
Oui.
C'est peut-être là le vrai changement de cette année ?
Moi, je pense qu'il y a deux changements fondamentaux dans cette élection de 89 députés. C'est à la fois effectivement cette implantation locale qui va être beaucoup plus importante, et c'est aussi l'image que l'on donne à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il y a un parti qui fait le jeu des institutions. Dans l'image que l'on donne, c'est déterminant.
Beaucoup, beaucoup se souviendront où ils étaient le 19 juin 2022, quand le système a craqué devant la poussée nationale, lorsque le chapelet parlementaire a égrené les 89 circonscriptions nationales gagnées.
On rejoint maintenant Martial Minier, vigneron, élu durant quelques années à Prignac, ancien président de l'aéroclub de la station balnéaire de Soulac, où on se trouve. Il a aussi été suppléant de la candidate de la majorité présidentielle il y a un an. Et il se bat, dit-il, pour sortir le Médoc de l'Ornière. Alors, vous m'avez proposé de faire gentiment un tour d'avion, parce que finalement, politique ici, c'est lié aussi avec la géographie du territoire.
C'est fondamental. Alors, on peut reprendre l'origine. Le mot Médoc, ça vient d'une abréviation latine qui était media aqua, au milieu des eaux. Ici, avant, là, sur le terrain où on est, c'était de l'eau. Et donc, ça génère de l'isolement. Ça a généré des parties de civilisation qui étaient ignorantes les unes des autres à quelques kilomètres. Voilà, c'est un petit peu ça le Médoc. C'est très rural, les gens sont des terriens. C'est très dur d'homogénéiser un territoire, sauf quand il possède ou quand il lui apporte une manne. En l'occurrence ici, la manne, il n'y en a pas. Ça a été longtemps le vin, mais il n'est pas partagé à hauteur de tous les gens. Donc ça amène des rancœurs, ça amène des aigreurs. Et quand là-dedans, vous avez quelqu'un qui vient vous dire « Mais tu vois que c'est de la faute de l'Europe, mais tu vois que c'est parce que c'est comme ça, que tu vis pas bien, etc. Bah, » c'est facile après de balayer le territoire. Hein, voilà.
On y va ? On va prendre l'avion ?
Allez, on va aller survoler ce beau territoire qu'on aime beaucoup et qu'on essaie de préserver.
Que diaboliser le RN aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose pour lutter contre.
Personnellement, je pense que le diaboliser ne sert pas à grand-chose. Parce que le diaboliser, c'est aller dans la plus petite partie de la lutte qu'on peut faire contre le RN. En fait, il faut l'analyser plus en profondeur. Voilà, c'est un organe central qui dépose des amplificateurs partout en France. Et on voit les amplificateurs qui augmentent à l'Assemblée. Hein, donc, mais quand ils augmentent à l'Assemblée, c'est qu'ils augmentent dans les territoires. Quand vous discutez avec les gens sur le terrain ici, voilà, c'est facile quand on va les voir un par un et qu'on leur dit bah, « tu comprends, voilà, est-ce que tu souffres pas ?» Bien sûr, tout le monde souffre. Quand on est isolé dans sa réflexion, bah, on a tendance à entendre le premier porte-parole qui passe à la porte, quoi.
Mais quelle est la solution alors ?
Mais je pense qu'on peut éveiller les gens, éveiller les consciences, apporter des choses et apporter des petites choses. Apporter le bien-être, apporter le fait de comprendre qu'ici, dans ce territoire, voilà, il n'y a pas besoin de grand-chose. Et essayer de comprendre que le pas grand-chose, ici, on le partage. Ici, le message d'un parti comme le Rassemblement National, c'est de dire, ben, regardez, personne ne partage avec rien, ils ont tout, vous avez rien, venez avec nous, on vous donnera tout. Quand vous expliquez aux gens que la ville à côté, elle est envahie par des Arabes, des Noirs, qui sont là, qui font rien, qui piquent le pognon des Français, le gars qui est à 10 km, il n'a jamais été en ville, ou il y va une fois pour le jour de marché. Il ne le voit pas, mais il le croit.
Il le croit.
Et quand il le croit, ben, il vote. Voilà. Et il vote de moins en moins. On est quand même ici dans des territoires où on est à 60% de l'abstention parfois, quand même.
RN à l'Assemblée, une armée au service de la normalisation. C'était un reportage d'Élodie Forêt avec une prise de son assurée par Gilles Gallinaro, Nicolas Mathias, Thomas Robine et Éric Audra. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage d'Ophar Guérite. Cette émission est déjà disponible sur le site de France Inter.